Europa Voice numéro 85 déjà, et comme à chaque fois, nous sommes avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
85 déjà, hein, et on parle toujours d'Europe d'ici d'Australie. Et petit moment d'histoire également cette semaine, les 20 ans des attentats du 11 septembre, et il faut en parler d'un niveau européen bien entendu.
Ouais, tout à fait Christophe, et puis ça, finalement ça recoupe bien avec notre précédent numéro d'Europa Voice où on avait parlé de la position européenne par rapport à l'Afghanistan et par rapport au retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Juste sur ce point aussi, entre notre dernier numéro d'Europa Voice et le numéro qu'on enregistre aujourd'hui ensemble, on a vu aussi en œuvre, alors non pas l'énorme solidarité européenne, mais le rôle de la France et de la diplomatie française et de son ambassadeur à Kaboul, David Martignon, qui est resté jusqu'au dernier moment, qui a délocalisé l'ambassade française à l'aéroport pour permettre à un maximum de ressortissants français, mais aussi d'alliés, de fixeurs, de personnes qui avaient aidé la France durant toutes ces années, bah de s'échapper et de vivre un avenir meilleur. Donc c'est aussi pour recouper avec cette histoire-là qu'on va parler ensemble des 20 ans des attentats du 11 septembre et peut-être un focus un peu européen sur ces attentats du 11 septembre.
Ouais, tout à fait. Alors, j'aimerais qu'on commence un peu avec ce qui s'était passé juste avant les attentats du 11 septembre. C'était l'assassinat du colonel Massoud. Le colonel Massoud qui avait été soutenu quand même beaucoup par la France, par l'Europe. Et aujourd'hui, il y a son fils qui aussi se met en tant que tête de proue du combat contre les talibans. C'est quand même incroyable quand on y pense, cette boucle qu'il y a eu en 20 ans et avec l'Europe au début et aujourd'hui l'Europe qui peut aussi peut aider justement ce passage avec les talibans.
Oui, vous faites bien Christophe de mentionner le commandant Massoud qui était venu en fait au Parlement européen le 5 avril 2001 à Strasbourg. Il était venu à un moment où l'Europe était de plus en plus inquiète face aux atteintes graves et répétées commises en Afghanistan contre les droits fondamentaux et la dignité de la personne humaine. Et c'était un moment, je m'en rappelle, hein, j'étais jeune à ce moment-là, mais c'était un moment extrêmement émouvant de voir le commandant Massoud dans l'hémicycle du Parlement européen et déjà à cette époque-là. Lever ces questions autour, encore une fois, des droits fondamentaux et de ce qui se passait à l'époque en Afghanistan. Quelques mois après, le commandant Massoud avait été assassiné, et vous avez raison de le mentionner aujourd'hui. Alors évidemment, hein, ça fait partie aussi du récit national, du récit afghan, mais on a son fils qui veut défier ces talibans et qui prend la relève de son père. Bah, pour montrer qu'un autre avenir est possible pour le peuple afghan. Et puis on va évidemment suivre ça avec intérêt. La question aussi qui, enfin moi en tout cas pas la question, mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai l'impression, encore une fois, hein, du haut de mes quelques années d'expérience dans ces sphères-là, que à l'époque on avait une Union européenne qui avait l'air plus inquiète, ou en tout cas plus interloquée par ce qui se passait en Afghanistan. Et je suis curieux de voir si maintenant, 20 ans après, et dans ce moment assez, encore une fois, symbolique, hein, où le fils du commandant Massoud, lui, veut prendre la tête de cette rébellion en Afghanistan, bah, si on aura aussi une Union européenne qui sera capable, alors pas forcément d'intervenir, hein, mais en tout cas de montrer un soutien clair et affiché pour un autre, encore une fois, avenir que celui des talibans en Afghanistan. Et sur ce point-là, je vous avoue, Christophe, que je ne suis pas totalement rassuré, parce qu'on avait des premières prises de position des dirigeants européens, alors qu'ils sont assez réalpolitiques. Hein, en les résumant, enfin, ce qui était dit, c'était que les talibans avaient... c'était eux qui étaient au pouvoir maintenant en Afghanistan, qui étaient revenus au pouvoir, et c'était avec eux qu'il allait falloir... dealer d'un point de vue politique. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille attendre grand-chose, malheureusement, de l'Europe de ce point de vue-là.
Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on sait, si on se concentre un peu sur les attentats du 11 septembre et les commémorations des 20 ans de ces attentats, comment ça a été commémoré, comment on s'est souvenu de ce moment-là à un niveau européen?
Alors, ça a été effectivement commémoré, Christophe, partout en Europe, hein, dans l'intégralité des pays européens. On a commémoré les 20 ans de ces attaques contre le World Trade Center. Ce qui est intéressant aussi, Christophe, c'est que à la suite de ces attentats, en fait, on était rapidement arrivé à une réaction assez, j'allais dire, proactive de l'Union européenne, parce qu'on avait quasiment tous les pays de l'Union européenne, qui ont participé aux missions qui ont suivi les attentats du 11 septembre. On avait l'intégralité des pays, à part, on parle de l'Union européenne à l'époque, à part Chypre et Malte. Ça représentait, Christophe, environ 132 000 soldats qui étaient déployés en Afghanistan. Alors, au pic de la présence européenne en Afghanistan, et on avait un contingent français qui était assez important, Christophe, puisqu'on était le quatrième contingent, alors pas européen, mais tout pays confondu, après les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Donc, on avait déjà à l'époque une conscience, pour le coup, européenne de ce qui se passait en Afghanistan et des conséquences du World Trade Center, qui était assez importante. Après, au niveau des commémorations, on ne va pas les prendre dans le détail. Ce qui vraiment change, de plus en plus, ce sont les versions complotistes qui émergent sur les réseaux sociaux, malheureusement, avec l'air du temps. Et puis moi, j'avais vu quelque chose qui paraît anecdotique, mais qui en fait est très révélateur de l'époque dans laquelle on vit. C'était que Al-Qaïda eux-mêmes ont dû faire une communication ces derniers jours sur les réseaux sociaux, expliquant que ce n'était pas la CIA derrière ces attentats du 11 septembre. Donc je ne sais pas si nos auditeurs se rendent compte à quel point on va loin maintenant dans les thèses complotistes. C'est que comme il y a tellement de thèses complotistes racontant qu'en fait c'est la CIA qui est derrière les attentats du 11 septembre, on a les véritables commanditaires de l'attentat, Al-Qaïda, qui ont dû eux-mêmes expliquer à une audience large que ce n'était pas la CIA, mais eux-mêmes derrière ces attentats du 11 septembre. Donc plus que, si vous voulez, les commémorations qui ont eu lieu dans chaque pays officiel, ce que je trouve intéressant et qui va être intéressant dans les prochaines années, maintenant que ces attentats font partie de l'histoire, c'est de voir comment ces thèses complotistes vont évoluer et de voir en fait comment est-ce qu'on va pouvoir finalement faire face à ce fléau qui est presque, maintenant aussi redoutable que les événements en soi, qui encore une fois font partie maintenant du récit national américain et de l'histoire du monde, qui a profondément changé le rapport de l'Occident au monde et le rapport des États-Unis au monde et les rapports de force, Christophe, entre l'Union européenne et les États-Unis aussi.
Ouais, tout à fait. C'est vraiment un point très important d'ailleurs de l'évolution du monde, mais surtout de la réaction que l'Europe avait prise à l'époque. Allez, on va parler un peu d'Europe maintenant, d'Europe pure et dure. Michel Barnier, qui était une des figures de la négociation européenne par rapport au Brexit avec les Anglais, avec les Britanniques, il tourne un peu son dos par rapport à la justice européenne. Expliquez-nous un petit peu tout ça.
Alors, on va effectivement, Christophe, on a beaucoup parlé de Michel Barnier à l'époque avec sa casquette de négociateur européen en chef pour le Brexit. Là, on va parler de Michel Barnier avec sa casquette de candidat à la primaire de la droite pour l'élection présidentielle en France. Et alors, ce qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers jours, c'est une déclaration qu'il a faite jeudi dernier, lors d'un rassemblement du parti Les Républicains à Nîmes, des journées parlementaires en fait, plus exactement, il a expliqué en fait, avant de ça, il parlait des questions migratoires en Europe, Michel Barnier, et puis il a fait une déclaration qui était assez surprenante, encore une fois, au vu de sa casquette mise de côté il n'y a pas si longtemps de négociateur en chef du Brexit. Il a déclaré, et là je le cite, « Nous ne pouvons pas faire tout cela ». Donc il parlait en fait d'initiatives en matière de politique migratoire. « Nous ne pouvons pas faire tout cela sans avoir retrouvé notre souveraineté juridique en étant menacés en permanence d'un arrêt ou d'une condamnation de la Cour de justice européenne ou de la Convention des droits de l'homme ou d'une interprétation de notre propre institution judiciaire ». Alors, pourquoi est-ce que, Christophe, ça a fait beaucoup parler? C'est que, en fait, on a l'impression qu'avec cette déclaration, Michel Barnier, alors qu'il était le premier pourfendeur de la primauté du droit européen pendant ces négociations Brexit, on a eu l'impression que Michel Barnier, en fait, il contestait la primauté du droit européen par des constitutions nationales. Alors, effectivement, ce qu'on lui reproche, c'est, pour faire plaisir à son électorat interne en vue de ses primaires, bah, c'est de finalement renier un petit peu ses positions très pro-européennes qu'on lui connaissait et que beaucoup de gens ont supportées et pour lesquelles ont beaucoup d'estime pour Michel Barnier.
Et est-ce qu'on peut inscrire ça, et je pense que la réponse est oui, mais on sait qu'il est candidat à la primaire à droite pour l'élection présidentielle. Est-ce que lui, de ce fait, il essaye de se recadrer dans... Parce qu'on sait très bien qu'à droite, tout le monde n'est pas forcément pro-européen. Et est-ce que lui, il essaye justement de timorer un peu son influence européenne, du Superman européen, du défenseur de chaque ligne de code, chaque ligne de droit européen? Est-ce qu'il essaie de timorer ça dans l'objectif de cette primaire à droite ?
Alors, il y a deux choses, Christophe. J'allais dire, il y a la question de fond et la question de forme. Sur la question de forme, Christophe, par rapport à ces primaires de la droite, on le sait très bien, et notamment depuis les dernières élections et le fait que François Fillon ait été désigné candidat à la primaire de la droite, c'est que si primaire il y a, et il semble qu'on s'oriente vers cette primaire, la primaire de la droite va se jouer très à droite, et après le candidat de droite va recentrer son propos. Alors pourquoi ça? Tout simplement, Christophe, parce que si un candidat à droite veut émerger au sein de son propre camp ou au sein des sympathisants de la droite, il faut qu'il se différencie au maximum du président Emmanuel Macron, d'où le fait que sûrement, pour la primaire de la droite, on va avoir une campagne, j'allais dire, qui va pencher fortement du côté droite de l'échiquier, de la droite républicaine. Et donc, on peut estimer que sur la forme, c'est aussi une des stratégies de Michel Barnier, bah, de montrer que ce n'est pas un euro-béat, un centriste européen, un super fédéraliste, mais qu'il est capable aussi de voir l'intérêt national par rapport à la question européenne. Donc ça, c'est sur la question de forme. Après, sur la question de fond, encore une fois, Michel Barnier, quand il a parlé quand il a fait cette déclaration, il y a deux choses. Il y a d'abord, en fait, il parlait encore une fois de questions des migrations et de souveraineté juridique par rapport à ces questions-là. Donc déjà, il faut un peu, j'allais dire, remettre les choses dans leur contexte. C'était pas une déclaration sortie comme ça ex nihilo sur les questions européennes en général. C'était sur la question des migrations et la question assez épineuse des frontières et du contrôle des frontières entre les frontières européennes et les frontières françaises. Ensuite, le deuxième élément, Christophe, sur le fond, encore une fois, je ne suis pas là pour dédouaner ou pas Michel Barnier, mais pour peut-être donner des éléments d'explication, c'est que c'est quelque chose qui est prévu, en fait, par les traités. C'est-à-dire que dans certains cas, on peut avoir... les traités européens prévoient qu'une cour de justice nationale puisse contester une décision d'une cour européenne. Et c'est ce qui s'était passé dans un passé pas si récent, Christophe, pour le rappeler. En 2020, on avait eu un arrêt de la cour Karlsruhe en Allemagne qui avait remis en cause la primauté du droit européen sur le droit national allemand. Et donc, après, la Commission européenne, elle, s'y était mêlée et avait ouvert une procédure d'infraction contre l'Allemagne. Mais à l'époque, déjà, les juges de Karlsruhe, donc les juges d'une cour européenne nationale, avait exigé de la Banque Centrale Européenne, la BCE, qu'elle justifie la conformité des achats de dette publique en refusant, voilà, si vous voulez, d'obtempérer, de se plier à l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne de 2018. Donc c'est un précédent qui existait déjà. Donc vous voyez, à la fois sur la forme, sur la question du curseur de la droite dans les primaires et sur la question du fond, avec ce double aspect de à la fois on n'est que sur les questions de politique migratoire et c'est un précédent qui existe au sein de l'histoire de l'Union européenne, on a quand même quelques éléments qui peuvent montrer que Michel Barnier n'est pas un horrible frexiteur, mais simplement quelqu'un qui adapte un petit peu son discours sur des questions politiques et sur un agenda politique très précis.
Il a quand même réussi à faire parler de lui, hein. Le but était là quand même.
Il y a aussi un peu de ça, hein, Christophe, c'est qu'effectivement, on est dans un moment... où on est dans une primaire, alors à la rigueur encore assez ouverte, parce que pour faire un peu de politique nationale, et selon l'ensemble des derniers sondages faits en France, pour l'instant, le candidat à la fois chez les députés, les Républicains, à la fois chez les sympathisants de droite et dans l'opinion qui pour l'instant émerge et fait la course seul en tête, c'est Xavier Bertrand. Et Xavier Bertrand, c'est un candidat qui déjà n'appartient plus aux Républicains, mais qui surtout a refusé dès le début l'idée des primaires, mais bien sûr en expliquant ces derniers jours dans les journaux qu'il ne veut pas, qu'il ne fera pas de mal et qu'il n'est pas là pour détruire sa famille politique. Donc en fait, tout à fait en phase avec le fait de recevoir le tampon, j'allais dire, des Républicains. Donc effectivement, les candidats à la primaire de la droite, donc Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin, et j'en passe, Valérie Pécresse, ont intérêt, eux, à faire un peu parler d'eux, parce que pour l'instant, encore une fois, le candidat qui fait la course en tête à droite, bah, c'est le seul candidat qui ne se soumet pas à une primaire. Donc Michel Barnier a effectivement fait parler de lui, mais je suis assez confiant, Christophe, que et j'espère surtout, au vu du passé, encore une fois, que j'appellerai pas Eurobéa, mais vraiment plutôt européo-réaliste de Michel Barnier, qu'on va surtout garder de lui l'image excellente qu'on avait eu lui, qu'on avait eu l'occasion de discuter ensemble de négociateur en chef du Brexit, pour pas lui accoler une affreuse caricature du Frexit, qui encore une fois, si on creuse un peu dans ses propos, n'est pas du tout ce qu'il a dit et n'est pas du tout ce qu'il veut dire, et que Michel Barnier est certainement le premier à continuer à défendre la primauté en général du droit européen, de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, à mon avis, prochaine Europa Voice, c'est un non-sujet, en tout cas, c'est un sujet dont on ne parlera plus.
Ouais, tout à fait. Allez, juste pour conclure, on va parler de l'autre côté de l'échiquier, parce qu'on a appris la candidature d'Anne Hidalgo à la primaire, mais à gauche cette fois-ci. Ça, c'est un point important, parce qu'on en avait déjà pas mal parlé dans des précédents Europa Voice. Ça enclenche le mécanisme de cette primaire à gauche, avec une candidate qui va devoir pousser les murs de Paris et convaincre à travers le pays qu'elle peut être une voix d'une certaine gauche et représentante pour cette présidentielle.
Oui, Christophe, on a eu effectivement l'annonce. Alors d'abord, on avait eu l'annonce de la candidature d'Anne Hidalgo. Ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que aujourd'hui, on veut tellement avoir la main sur le narratif et tellement construire l'agenda qu'on annonce quand est-ce qu'on va annoncer sa candidature. Donc Anne Hidalgo avait annoncé il y a quelques semaines qu'elle allait annoncer sa candidature le week-end dernier, et c'est ce qu'elle a fait effectivement. Ce qui est intéressant avec Anne Hidalgo, il y a deux choses. C'est d'abord que, en fait, c'est à l'heure actuelle, c'est très compliqué de voir un leader à gauche émerger, et donc Anne Hidalgo a autant, j'allais dire, que les autres, sa place sur l'échiquier politique, ou en tout cas dans le cadre d'une candidature unique de gauche, j'allais dire parlementaire. Ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est assez intéressant, c'est que on est dans une période où Emmanuel Macron, le président Macron, a quand même réussi à restituer un petit peu l'image de la France sur la scène internationale. Ça, je crois que c'est quelque chose dont tous les partis peuvent s'accorder, c'est que, en mauvais français, France is back, et ça va l'être d'autant plus, et sûrement le président Macron va en jouer au moment de la présidence de l'Union européenne par la France en début d'année prochaine. À gauche, Anne Hidalgo est certainement la seule personnalité politique, Christophe, non pas en termes de pays, mais en termes de soutien dans d'autres grandes villes, qui peut se targuer d'avoir une résonance à l'échelle mondiale. Effectivement, on avait déjà parlé qu'aujourd'hui, il y a des échelons cohérents au niveau de développement, de projets, etc., que sont les régions, que sont les grandes métropoles. Et si vous regardez un petit peu à gauche, encore une fois, Anne Hidalgo est peut-être la seule à parler aux décisionnaires à Tokyo, à Sadiq Khan à Londres, à Aaron Uday à Tel Aviv, avec Schwarzenegger sur les questions de climat en Californie, et je pense qu'elle va aussi jouer de ça, et c'est, j'allais dire, une position qui est assez intéressante pour elle, en temps de construction de son agenda politique, c'est de aussi de capitaliser sur la France est de retour sur la scène internationale, capable de prendre des grandes décisions, capable d'impulser des mouvements, etc., et elle jouera de cet aspect d'être la seule leader de gauche capable de continuer et même d'amplifier ce mouvement initié sous la présidence Macron, mais que j'allais dire avait déjà un peu commencé au moment de la gestion de la crise européenne par Nicolas Sarkozy à la fin des années 2000, 2009, 2010. Donc, vous voyez, ça, c'est pour moi un positionnement qui va être assez intéressant en attendant d'autres candidatures, j'allais dire, sérieuses à gauche. Je ne qualifierai pas celle d'Arnaud Montebourg. Je ne sais pas si pour l'instant on est que dans le marketing politique, on a réussi à faire parler de lui avec son concept de remontada, ou si vraiment il y a un programme, des équipes derrière lui. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, Anne Hidalgo a décidé de sortir du bois, de porter cette candidature, d'être la première à s'être positionnée. Et puis, c'est peut-être quelque chose aussi qui va marcher dans le sens où ça a marché pour l'instant à droite, puisque Xavier Bertrand, rappelons-le, a été le premier à lancer vraiment sa candidature avec une image de droite pour l'élection présidentielle, même s'il ne participe pas à une primaire. Et pour l'instant, encore une fois, quelques mois après, c'est toujours lui qui fait la course en tête. Donc, et peut-être que Anne Hidalgo s'inspire aussi de la stratégie mise en place par Xavier Bertrand à droite.
Absolument, affaire à suivre alors. Merci Nathanaël.
Merci beaucoup Christophe.